Chapitre 25. Donne-toi au Dewa. Premier commandement de la religion Dewique. Le Dewa est une entité formée de plusieurs fidèles qui prient en commun. Sois. Les 9 évangiles d'Éphrène. Conseil de vie. L'antra. Concentrez-vous sur l'antra. La voix puissante de Shari ramena un début de calme. Il sentit la petite main de Taoufraïm et la main glacée de Niki se détendre dans les siennes. Ils invoquèrent le son de vie et le cœur du Dewa se reforma. San Francisco et Phoenix cessèrent de haïr les Gox qui les entouraient. Jack cessa de haïr Francis Tebog, ce cardinal fanatique qui avait ordonné le gazage du Terrarium Nord d'Anjor et assassiné son vieil ami Arthrak. Wu cessa de haïr les 4 vieillards qui avaient détourné l'enseignement Absurat à des fins personnelles et Jankal Nanufa, ce monstre qui l'avait entraîné à capturer et vendre des enfants du 6e anneau. Ge cessa de haïr les hommes qui s'étaient servis de son corps pour soulager leurs pulsions animales et les castes qui avaient conduit son peuple à la désintégration dans l'espace. Fraciste Bog cessa de haïr sa mère et ses instructeurs creudiens des écoles de propagande sacrée. Oniki cessa de haïr le prince qui lui avait volé sa virginité dans l'enceinte du cloître et les matrions qui l'avaient condamné à l'exil humiliant sur Psalion. Taoufraïm cessa de haïr ce père qui l'avait laissé grandir parmi les serpents de corail et cette mère proscrite qui l'avait obligé à vivre comme un paria. Yel cessa de haïr l'humanité qui n'entendait, qui ne sentait, qui ne voyait rien, et Jack qui grandissait trop vite. Afikit cessa de haïr son père, Shri Alexou, et son époux métamorphosé en machine dont elle tenait la main aussi froide que celle d'un mort. Shari cessa de se haïr lui-même pour avoir négligé l'enseignement du fou des montagnes et laissé Tixou seul face à l'Hyponéros. L'antra rétablit le silence et les invita à se fondre dans le Dewa. L'incréé lança une nouvelle offensive. Il lui fallait éviter de laisser croître l'énergie de l'entité formée par les 11 humains sources, dont la chaleur, la tension créatrice l'affaiblissait. Il chercha les failles, exhuma les peurs, exalta les rancunes. Et de nouveau le cercle se rompit. « Vous connaissez ma puissance, » répéta Tixou. Cette phrase, suggérée par les cartes mères, agissait comme un germe indépendant. Elle se gravait dans leur inconscient, démantelait leur confiance, leur défense, obstruait le chemin de leur source. La nuit grandissait autour d'eux, occultait les formes, les étoiles. La terre perdait toute consistance, et ils avaient l'impression de flotter au-dessus d'un océan de vide. Seules les fleurs du buisson du fou persistaient à briller. « Vous connaissez ma puissance. » L'incréé ne semait pas la mort, car la mort était également une tension, une phase d'un cycle. Il semait le rien, la non-existence, le non-être. L'antra ! Cria Shari. Le son de vie n'était plus qu'une vibration lointaine, une onde qui s'éteignait lentement. L'effacement s'effectuait sans douleur, sans désespoir, avec une indifférence légèrement teintée de nostalgie, de regret. Le froid du néant se transmettait en Afikit par la main de Tixou, cette main qu'elle avait maintes fois tenue et par laquelle l'amour, la chaleur était si souvent passée. Il lui semblait qu'elle n'avait vécu que pour cet achèvement, que pour ce renoncement. Les hommes et leur étrange fureur cesseraient bientôt d'être, et elle aurait permis cela. Quelle importance ! Personne ne serait là pour s'en souvenir, pour la maudire, pour cracher son nom avec mépris. Elle entr'ouvrit les yeux et observa les visages de ses compagnons, caressés par la lumière des fleurs du buisson. Ils n'exprimaient rien d'autre que la résignation. Il n'y avait plus entre eux que des gouffres d'indifférence. Elle n'éprouvait plus aucun sentiment maternel pour Yel, la chair de sa chair. L'envie l'avait quittée, avait dit le missionnaire de Bawalo. Les effets des plantes des tropicaux s'étaient estompés. Il disparaîtrait avant d'avoir vu les annales indiques. Quelle importance! L'arche de la création humaine disparaîtrait en même temps qu'eux, et des millions d'années s'écouleraient avant qu'un éclat de mémoire ne décide de reconstituer la trame de son entier. Le bruit du blouf était tellement fort qu'il couvrait la vibration de l'antra. Yel n'en ressentait aucune terreur, aucune horreur. Le blouf était en train de la manger, mais rien ne lui donnait envie d'échapper à ce terrible sort. Elle n'avait certes pas prévu de finir dans le ventre du néant. Elle n'avait pas prévu de fin tout court, forte de son sentiment d'immortalité, suspendue à la pérennité de l'instant. Qui pourrait maintenant lui insuffler le désir de refaire de chaque seconde une éternité? Jack? Elle n'était pas certaine qu'il eût la capacité de la comprendre. Elle ne serait jamais en phase avec les autres humains, toujours en avance, toujours en proie à ces effroyables perceptions qui ne lui laissaient pas un moment de répit. Seul le vide lui proposait la tranquillité de l'esprit.
« Vous connaissez ma puissance. »
Oniki avait de tout temps préparé cette dissolution dans le néant. Elle n'avait jamais osé prendre sa place, que ce fût au sein des Tutas, que ce fût dans le bouclier de corail, que ce fût aux côtés de son prince ou de son fils. Elle avait exécuté la volonté de ses parents, la volonté des matrions, la volonté de son prince, la volonté de son fils, la volonté de l'incréé. Y avait-il une place en cet univers pour quelqu'un qui n'eût pas de volonté propre?
Vous connaissez ma puissance.
San Francisco ne serait jamais un prince de Jérusalem, honoré et reconnu par les siens. Les siens l'avaient rejeté, banni, condamné à périr sous les dents des oursigres sauvages dans le cirque des pleurs. La tribu des Américains s'était volatilisée avec les autres tribus dans l'espace, et ni sa tête ni son cœur ne souhaitaient régner sur le vide. Que le vide règne sur lui.
Vous connaissez ma puissance.
Gue rejoindrait bientôt les siens. Elle ne les rejoindrait pas car on ne rejoint pas ce qui n'existe pas. Elle les accompagnerait pour l'éternité dans le vide infini, comme il l'avait accompagnée dans le cosmos pendant des milliers d'années EDVL. La longue errance de l'Elguazer n'avait été qu'une anticipation de la fin, un songe prémonitoire d'un vieux fou de la Terre. Elle entrevoyait le visage de Phraciste, éclairé par la brillance des fleurs du buisson. Elle lui fut reconnaissante des quelques instants de bonheur qu'il lui avait offerts, de ces brefs et violents éblouissements qui avaient précédé l'extinction de sa lumière.
« Vous connaissez ma puissance. »
Le Xui avait rencontré plus fort que lui, et vous n'avez plus qu'à s'incliner. L'absurdité de sa vie lui était enfin révélée. Chaque fois qu'il avait poussé le cri de mort, cette perversion de l'énergie fondamentale, il s'était mué en serviteur zélé de l'incréé. Il avait préparé l'avènement du vide. Chaque fois qu'il avait encagé un enfant sur le sixième anneau, il avait semé des graines de néant dans la terre humaine. Les deux expériences majeures de son existence, l'idéal chevaleresque et l'horreur des razzias, avait produit un résultat identique. Quel intérêt y avait-il à poursuivre la route? Ne valait-il pas mieux déposer les armes, s'abîmer dans un oubli total et apaisant? Il supplia Katiaï de lui pardonner son échec.
« Vous connaissez ma puissance. »
Fraciste Bog avait été un piètre enfant, un piètre cardinal, un piètre moufti. Il n'y avait pas de raison qu'il fût un bon compagnon pour Gueux. Il l'aimait, bien sûr, mais savait-il ce qu'était l'amour? Son cœur n'était-il pas une pierre polie et noircie par les dogmes? Il avait cherché à s'anéantir lui-même en tuant des millions de ses semblables, en les regardant agoniser sur les croix de feu. Si grande était sa culpabilité que personne ne se lèverait un jour pour le défendre, pour l'absoudre, pas même son prédécesseur sur le trône mufial, son maître en cynisme, Barophile le 24e. Il ne réussirait jamais à se pardonner, à s'accepter, et dans ces conditions, il lui semblait préférable de se nier définitivement, radicalement.
« Vous connaissez ma puissance !»
Phénix était la dernière femme du peuple élu, la dernière représentante d'une race supérieure et sacrée. Ni son cœur ni sa tête ne supporteraient de vivre dans la seule compagnie des Gox, des humains maudits, des rejetons de femelles au ventre putride et de mâles à la semence sale. Elle ne voulait pas mettre au monde des enfants qui n'auraient pas d'autre choix que de fréquenter des créatures aux gènes infectés. Ils se marieraient avec des impurs, fonderaient une race bâtarde, oublieraient qu'ils étaient des élus, des fils du globe sacré, des Gersalémines. Elle préférait 10 000 fois la dispersion éternelle de son âme à la responsabilité de la déchéance de son peuple.
« Vous connaissez mon pouvoir. »
Et elle ne l'aimerait jamais. Jake en était maintenant certain. Elle était incapable d'aimer, non par méchanceté, mais parce qu'elle était différente de lui, différente des autres hommes. Quelqu'un qui entend le bruit du blouf ne peut pas percevoir les battements de son propre cœur. Quelqu'un qui ressent l'agonie des étoiles ne peut pas se consacrer à l'amour. Quelqu'un avec un regard aussi effrayant ne peut pas contempler les siens avec tendresse. Pourtant, Jack ne vivait que par elle et pour elle. Pa et Manhatskin l'avaient précédé dans l'enfer des Creusiens, abandonnant leur maison à ces affreux Pa et Mangraville. Ils n'avaient plus de famille, plus de toit, plus de souvenirs, plus de cieux, et la seule demeure dans laquelle ils désiraient entrer, le cœur de Yel, était désespérément close. Il refusait de capituler pourtant. Il la fixait par-dessus le buisson, perché au-dessus du vide. Elle ne levait pas les yeux sur lui, mais l'insoutenable tension de son regard produisait une onde de chaleur semblable à la vibration de l'antra.
« Vous connaissez ma puissance. »
Chaleur, lumière, amour. Les germes de cohésion prévinrent les cartes mères que des mouvements convulsifs agitaient la mémoire structurelle de leur hôte. Taoufraïm avait eu un moment d'étourdissement, mais il avait repris empire sur lui-même car il se révoltait à l'idée de cet affreux bonhomme, que ce suppôt de l'incréé menaça l'existence de ses amis les serpents. Les hommes pouvaient s'éparpiller dans le néant si tel était leur désir, mais ils n'avaient pas le droit d'entraîner le règne animal dans leur chute. Et donc Taoufraïm, fermement accroché à la main de son père d'un côté et celle de Nayafikid de l'autre, invoquait avec ferveur l'antra, le son de vie. Il ne percevait plus les frontières de son corps comme lors des transferts communs. Il était un point lumineux, une étincelle qui refusait de s'éteindre, qui luttait de toutes ses forces contre le souffle glacial du blouf. Il voulait encore siffler avec les reptiles, embêter Yel, taquiner Jacques, embrasser ses parents, se baigner dans l'eau du torrent, goûter les rayons du soleil sur sa peau, explorer tous les domaines de la création, dormir, rêver, se réveiller, recommencer, manger pour l'éternité les fruits de la vie.
« Vous, la puissance, vide, 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 vibre, éclair, conscience. » Les cartes mères rencontraient des difficultés grandissantes à interpréter les données.
Les germes de cohésion bruissaient comme des implants cérébraux surexcités, affolés. Charlie restait parfaitement calme, résolu. Il avait nettement ressenti le terrible fléchissement de ses compagnons d'Ewick, hormis Taoufraïm dont la rage de vivre n'avait pas été altérée par les attaques virulentes de l'incréé. Mais cette défaillance ne l'avait pas abattu. Elle l'avait même arrangé dans la mesure où l'incréé, se ruant dans leurs failles, ne s'était pas acharné sur lui. Il avait donc eu le temps de consolider ses propres défenses et de préparer la riposte. Remorqué par l'antra, il était descendu dans les couches les plus subtiles de l'esprit, à la source de la pensée, là où s'enfantaient les ondes et les formes. Il s'était d'abord demandé pourquoi le Dewa ne les avait pas transportés dans les annales indiques. Il en connaissait à présent la raison. Ils avaient déjà pénétré dans les annales. Ils étaient dans les annales. Le son de vie déployait une puissance grandissante en Chari, en Taoufraïm. La puissance du vie. Tapis dans les échanges des cartes mères, l'incréé se tordait de fureur. La mémoire conjoncturelle des conglomérats échappait au contrôle des germes de cohésion. Les ténèbres et le froid s'étaient déployés sur tous les mondes de l'ancien Nang Empire, sur Syracusa, sur Markina, sur Orange, sur Isigor, sur Sbarao et les Anneaux, sur Platonia, sur Ugen, sur Ours, sur les planètes de Néorope, sur Point Rouge, sur Deux Saisons. Les étoiles s'étaient éteintes et partout on annonça la fin de l'univers. D'aucuns appelèrent cela l'apocalypse, d'autres la rétraction universelle, d'autres le grand châtiment, d'autres la fin du monde. Des voix s'élevèrent pour soutenir l'hypothèse d'une intervention des Skaïtes d'Hyponeros et comparèrent ce phénomène à la disparition de la planète Enlemars. Les animaux levèrent les yeux inquiets sur le ciel, poussèrent des cris d'effroi. Les hommes sortirent de leur maison, de leur immeuble, de leur hutte, de leur case, de leur cabane, de leur antre, de leur caverne, de leur tente, se répandirent dans les rues et sur les places. Certains adressèrent des prières silencieuses à leur Dieu, d'autres chantèrent les louanges du Créateur, d'autres invoquèrent les démons et les diables, d'autres se révoltèrent, d'autres se résignèrent. Les suicides, les meurtres, les vengeances, les atrocités se comptèrent par millions. Les peuples disséminés dans la Voie lactée étaient peu à peu absorbés par un gigantesque trou noir.
« Je suis Jekatskin, fils de Paimanatskin. Je t'aimerais si fort, Yel, que je forcerais la porte de ton cœur et te ferais oublier le bruit du blouf, l'agonie des étoiles. Tu me regarderas avec des yeux de femme. Tu contempleras tes enfants avec des yeux de mère. »
Femme, mère, un visage blanc sur un oreiller.
Je suis Phénix, fille de Dallas et de Cheyenne de la tribu des Américains de Jérusalem. Je te ferai des enfants, prince San Francisco, et mon cœur chérira les hommes ou les femmes qu'ils épouseront. Mon cœur chérira les enfants qu'ils concevront. Je serai un maillon de la longue chaîne de la vie. Gok ou élu, quelle importance! Ils seront des êtres humains, des êtres qui marchent debout, des expressions de mon rêve, et je vivrai à travers eux jusqu'à la fin des temps. Un enfant, Orange, la verte violine, Bilo Maitreli.
Je suis Phraciste Bog, fils de Jessica Bog, lingère de la ronde maison aux neuf tours. Nous vivrons, Gueux, et tu m'apprendras à aimer. Tu m'apprendras à pardonner. Tu m'apprendras à me contempler sans haine et sans reproche. Tu seras mon miroir, mon autre moi-même. Mon âme sœur venue de l'espace. Nous découvrirons les merveilles du vaste univers. Je mettrai mes pas dans tes pas, mes yeux dans tes yeux, mes joies dans tes joies, mes rires dans tes rires, ma semence dans ton ventre. Je romprai en toi mes vœux de stérilité. Je créerai un ordre de guérisseurs. Ils voyageront de monde en monde pour soigner l'âme et le corps des hommes. Mon enfant, Yel, ma petite merveille.
Je suis Wu Fanli, fils de Xiang Zhaofang et Zhong Fanli. Je suis le serviteur du Xui. J'enseignerai aux hommes à découvrir le lac du Xui. J'épouserai Katiai, l'ima des Abrases, et je respecterai ses visions. Je reconnais ma responsabilité dans le trafic d'enfants et, même si je sais que c'était leur choix, je réparerai mes erreurs en montrant le sentier du Xui à tous les enfants qui m'en feront la demande. De la sorte, ils ne seront jamais victimes des pillards et des hommes malades de leur sexe. Mon cri de mort sera un cri de vie. Le cri que poussera mon fils lorsqu'il franchira la porte du ventre maternel. Un ventre humide, chaud, sombre. La violence de l'effort, la brutalité de la lumière. Un cri, mon cri. Je suis Ge, fille de Vince Dalra, reconnue par Maa comme l'élu. Ultime représentante du peuple errant, présent d'Elguazer à l'humanité. Je vivrai pour tous ceux des miens qui sont morts, pour qu'ils vivent à travers moi. Je fonderai un foyer avec Fraciste Bog, l'homme qui m'a guéri de la brutalité du soleil et de celle des hommes. Je l'aiderai à trouver la paix comme il m'a aidé à trouver ma paix. Je pleurerai toutes les larmes de mon corps pour qu'il se baigne dans le fleuve du pardon. Mes cheveux brilleront comme un soleil pour le réchauffer à la saison des grands froids. Il se réconciliera dans mon ventre. Il m'ensemencera. Et je lui ferai des enfants tellement beaux qu'il me remerciera tous les jours d'avoir rompu en moi ses vœux de chasteté. Des cheveux brillent comme des soleils. Afikit. Yel, mes soleils.
Je suis San Francisco, fils du prince Seattle et de Memphis. Il me suffira d'être un prince de l'humanité. Ma tribu sera celle des hommes. Je fonderai une nation avec Phénix, et nous vivrons sous la glace parce que la lumière y brille d'un éclat unique et splendide. Nous bâtirons une Jérusalem de gloire et de pardon, où tous seront bienvenus, où tous seront élus. Mon cœur et ma tête se réjouissent de cela. Ils se réjouissent d'avoir croisé la route de Jek, le Gok prince des hyènes. Ils se réjouissent d'avoir voyagé dans le ventre du Xaxas des légendes. Ils se réjouissent d'avoir rencontré Nayafikit et sa fille Yel. Ils se réjouissent d'avoir dormi dans la glace pendant 3 ans. Ils se réjouissent de tous les événements agréables ou désagréables qui me sont arrivés, qui m'arrivent et qui m'arriveront.
Je suis un homme. Un homme. Un homme.
Je suis Onikike, fille d'Arten Wart et de Yofike de Corallion. Je vivrai pour t'aimer, mon prince, mais je vivrai pour m'aimer aussi, car je t'aimerai davantage si je m'aime davantage. Je te dirai mes désirs, mes envies, mes volontés, et même si tu n'es pas d'accord, même si tu ne me comprends pas, même si tu t'opposes à moi, je saurai m'exprimer. Je te serai dévoué, mais en toute connaissance de cause. Car la dévotion n'a de prix que si elle est librement consentie. Nous ferons des frères et des sœurs à Taoufraïm, et nous les emmènerons vivre sur l'île de Psalion. Je leur apprendrai à nettoyer les tuyaux des grandes orgues, et tu leur apprendras à voyager sur la pensée. Je me souviendrai toujours de notre première rencontre dans ma cellule du Touta. Tu étais maigre, tu étais triste, j'étais effrayée, j'étais folle, et je serai folle de toi pour toujours.
Vivre pour aimer? L'homme vit pour s'aimer? Pourquoi est-ce que je me déteste de la sorte? Il pleut toujours sur deux saisons, triste, morne. Un peu de Mumbe me réchauffera. La porte s'ouvre. Tiens, une Syracusaine, belle. Qu'est-ce qu'une Syracusaine peut bien foutre dans ce coin paumé?
Je suis Yel, fille d'Afikitalexou et de Tixuoti. Je me veux telle que je suis, décalée, lointaine. Est-ce que tu te souviens de moi, papa? J'ai eu tant de chagrin lorsque tu es parti affronter le Blouf dans son pays. Vois ce que le Blouf a fait de toi, un robot, une machine. Pourtant, je le sens, je le sais, tu as gardé ton âme d'enfant, d'homme et de père. Je voudrais te dire que j'aime un garçon. Il s'appelle Jacques et sera mon mari. Tu penses peut-être que je suis trop petite pour prendre ce genre de décision. La jalousie des pères. Je te rappelle que tu m'as faite avec une guerre d'avance. Jacques m'aidera à prendre un peu de retard, à flâner en route. Peut-être même que j'accepterai de lui faire un enfant, un seul, une fille. Je sais déjà son nom, mais je ne te le dirai pas tant que tu ne seras pas sorti de cette machine. Souviens-toi de moi, papa. Souviens-toi de mon odeur, de mon rire, de ma voix. Tu disais toujours que je parlais comme un sabre. Souviens-toi.
C'est toi, Yel?
Ma fille?
J'étais heureux de ta naissance, si fier de toi.
Je suis Afikit Alexou, fille de Dama Maïté Sri Alexou. L'envie m'est revenue, mon aimé. T'ai-je déjà dit que je te couvrirai d'un amour si fort qu'il t'arrachera des griffes de l'Hyponéros? Connais-tu, mon aimé, la force de mon torrent d'amour pour toi? Je suis celle qui ouvrit la porte de ton agence de deux saisons, celle que tu transféras gracieusement sur la planète Point Rouge, celle que tu poursuivis jusqu'à Selbdik, celle que tu enlevas du monastère Absurat, celle qui finit par t'apprécier et t'aimer. T'ai-je déjà dit tout cela, Tixou? Reviens parmi les hommes, et je te suivrai où tu iras, même si c'est dans le pays de la mort. Je t'ai laissé partir voici 3 ans, je ne te quitterai plus désormais. Accepte ma vie, ma chaleur.
Je me souviens de toi, Afikit. Je me souviens de moi. Les germes de cohésion laminés par le chant des êtres sources se désagrégèrent et brusquement, l'échafaudage élaboré par les cartes mères s'effondra. La mémoire de Tixou lui fut restituée. Il redevint un humain et sa vibration créatrice se joignit au cœur de ses 11 compagnons. Ils constituèrent un véritable dewa, un temple à 12 colonnes. Et l'incréé, vaincu, déserta l'enveloppe corporelle de l'orangien. Le jour se fit aussi soudainement que la nuit quelque temps plus tôt. Le soleil brilla d'un éclat radieux, la brise murmura dans les frondaisons, les oiseaux se remirent à chanter. Un liquide tiède et poisseux coula sur la main d'Afikit. Elle ouvrit les yeux, poussa un cri. Tixou était couvert de sang de la tête aux pieds. Ils rompirent le cercle et se pressèrent autour de lui. Les éléments qui avaient maintenu les diverses structures du corps artificiel de Tixou avaient cédé. Des micro-explosions se déclenchaient à l'intérieur de lui, déchiquetaient les organes, détruisaient le réseau sanguin, produisaient d'irréparables lésions dans son cerveau. C'était peut-être le prolongement du refus de décréation des maîtres germes. Une onzième étape du plan des Skaïtes d'Hyponéros. Une déflagration de vie dans des limites devenues trop étroites. Tixou entr'ouvrit les lèvres pour parler, mais seuls des filets carmin s'échappèrent de sa bouche. Ses jambes se dérobèrent sous lui et il s'écroula à côté du buisson. Afiki glissa la main sous son crâne, lui souleva doucement la tête. Sa peau éclatait comme un fruit trop mûr, dévoilait des crevasses à l'intérieur desquelles se formaient des flux de lumière, des ondulations fulgurantes. Yel ne pleurait pas. Elle avait toujours su que son père ne survivrait pas à l'épreuve. Elle savait toujours à l'avance ce qui allait se passer. Elle n'entendait plus le blouf. Le Dewa Indik lui avait coupé l'appétit pour quelques millions d'années. Jek s'approcha d'elle et l'enlaça tendrement.
« Jek, sauras-tu me faire entendre le chant de la vie ?»
Le corps de Tixou s'évanouit, comme dissous dans une invisible cuve. Afikit se redressa, les yeux brouillés de larmes.
« Il est mort en être humain. »
chuchota-t-elle en contemplant l'azur du ciel. Il l'attendait quelque part dans cette immensité. Elle le rejoindrait bientôt. Elle lui en avait fait la silencieuse promesse. Ils restèrent 3 jours ensemble, entourant Afikit et Yel de leur affection.
« Nous n'avons pas vu les annales indiques, »
dit Fraciste Bog alors qu'il se promenait avec Shari et Wu sur les bords du torrent.
« Nous ne pouvons pas les voir lorsque nous sommes, lorsque nous étions 12, » répondit Shari. « Nous étions nous-mêmes les annales indiques. Mais je vous engage à les visiter chacun de votre côté. Elles en valent vraiment le détour. »«
Je ne comprends pas très bien, » fit observer Wu. « Elles ne peuvent être à la fois là-bas et ici. »«
Nous sommes tous ici et là-bas. »
La réponse parut intéressante à Wu, dans ce sens qu'elle lui proposait une piste à explorer, une énigme à déchiffrer. Les habitants des mondes du Levantin avaient élevé l'énigme au rang d'un art. Ils se séparèrent au crépuscule du 4e jour. Seuls, Afikit, Yel et Jek restèrent sur Terra Mater, avant de se fondre dans les couloirs éthériques et de repartir chacun vers leur destin. Ils s'embrassèrent longuement et se firent la promesse formelle de se revoir. Taoufraïm serra Nayakit avec une telle force qu'il lui imprima une marque bleue sur le cou. À l'aube du 7e jour, Afikit découvrit qu'un nouveau buisson se dressait à côté du buisson du fou. Un buisson aux fleurs rouges, rouge comme le sang de Tixou, rouge comme le sang du sacrifice. Yel et Jek revirent avec plaisir le village des Imlias. Ils se mêlèrent aux flots humains comme des pèlerins anonymes, mais au lieu de se diriger vers les 2 buissons aux fleurs perpétuelles, ils empruntèrent le petit sentier qui menait au torrent, puis, au-delà, au premier contrefort du massif. L'hiver venait tout juste de s'achever et un manteau neigeux ajouré recouvrait encore l'herbe et les fourrés. Ils trouvèrent Afikit à l'endroit habituel, devant la grotte du fou. Ses cheveux d'or se parsemaient de quelques cheveux argentés, mais elle semblait gagner en beauté au fur et à mesure qu'elle avançait en âge. Elle se tenait à l'écart des incessants pèlerinages organisés par les compagnies de transfert des mondes du centre et des marches. Elle se nourrissait de quelques fruits sauvages et de victuailles abandonnées par les pèlerins dans les environs du village. Ils la prenaient pour une originale, pour une dévote retirée sur Terra Mater, afin de se consacrer au culte des guerriers du silence. Ils auraient été surpris d'apprendre qu'elle était Naya Fikit, la légendaire compagne de Sri Lumpa. Hiver comme été, elle était toujours vêtue de la même robe de laine. Elle resserrait à la taille avec des branches tressées.
« Maman !»
cria Yel pour attirer son attention. Et lorsque sa mère tourna la tête en sa direction, elle lui tendit sa fille, Abael, âgée de 2 mois.
Afikit prit la fillette dans ses bras, la contempla un long moment, lui caressa le front, prit sa petite main dans la sienne, lui baisa les doigts et lui fredonna une vieille comptine syracusaine. Elle leva ensuite les yeux sur Yel, vit qu'elle était devenue une femme épanouie, qu'elle ressemblait de plus en plus à Tixou, qu'elle semblait heureuse avec Jack Atskin, pour autant que le bonheur signifia quelque chose pour quelqu'un comme elle. À l'annulaire de sa main droite brillait le corindon Julien.
« Elle s'appelle Abael, » dit Yel. « J'ai fait le plus vite possible. Je savais que tu voulais voir ta descendance avant de partir. »«
Je peux partir en paix. Ma descendance est très belle. Où habitez-vous ?»«
Dans un aven de Platonia, » répondit Jack, « pour l'instant. » C'était maintenant un géant de plus de 2 mètres, et sa femme semblait minuscule à côté de lui. Son visage rond exprimait une grande bonté, une qualité indispensable lorsqu'on vivait quotidiennement aux côtés de Yel.
Vous ferez d'autres enfants ?
Demanda Afikit.
Un seul suffira, s'exclama Yel. Avez-vous vu les autres compagnons du Dévoi ?
Nous rendons des visites régulières à San Francisco et Phoenix. Ils se sont installés sur un monde glacé, où ils ont creusé une ville splendide. Ils ont eu des jumeaux, et Phoenix est de nouveau enceinte. Nous avons revu une fois Wu et son épouse Katiaï. Ils vivent sur le 6e anneau de Sbarao. Wu y a ouvert une école de Xui et ils ont 3 enfants. Nous savons que Phraciste et Gueux sont partis pour un long voyage. Quant à Shari, Oniki et leurs enfants, tu les vois plus souvent que nous.
Taoufraïm est grand maintenant, dit Afikit. Il sera bientôt prêt pour remplacer le fou des montagnes et devenir l'immortel gardien des annales humaines.
Elle prit congé d'eux 1 heure plus tard avec une gravité inhabituelle. Elle ne descendit pas vers le village des pèlerins ni vers le volcan d'Exode. Elle gravit d'un pas tranquille les versants escarpés des Imlias. Elle ne se retourna pas une seule fois. Les pics enneigés absorbèrent sa frêle silhouette.
Nous ne la reverrons jamais, murmura Yel. Elle est partie rejoindre mon père. Notre fille n'aura jamais de grand-mère.
Jack embrassa tendrement sa femme.
Nous l'aimerons pour 4 Manhatskin.
Le lendemain, les pèlerins découvrirent un 3e buisson à côté du buisson aux fleurs brillantes et du buisson aux fleurs rouges. Ces fleurs, éternelles elles aussi, étaient d'un blanc le plus pur, le plus éclatant qu'il eût été donné à des yeux humains de contempler. Un jeune homme à l'allure timide se présenta devant Sri Ampra. Le vieil homme avait l'habitude de gravir toutes les nuits une colline qu'il avait appelée Aratan pour observer le ciel étoilé. Le jeune homme était d'origine syracusaine, comme l'indiquaient ses vêtements. Cela faisait plus de 30 ans que les Syracusains avaient abandonné l'usage du col en corps et qu'à la place, ils portaient une sorte de sous-vêtement qui leur montait jusqu'au cou, mais laissait la tête et la chevelure libres.
« Je suis Messaoudine Joupiette, » dit le jeune homme. « Je finis mes études et je prépare une thèse sur les guerriers du silence et les légendes s'y rapportant. Voulez-vous m'accorder un entretien ?»«
J'ai déjà entendu parler de vous, » répondit Sri Ampra. « Vous faites preuve de trop de modestie lorsque vous prétendez finir vos études. Vos mérites sont déjà connus. » On dit de vous que vous êtes le plus grand poète de la première période post-Hang Empire. Brillant, charmeur, le favori de ces dames et la bête noire de ces messieurs. Ne croyez pas que nous sommes coupés du reste de l'univers sur Néorope.
Le jeune homme s'inclina comme pour rendre hommage à la perspicacité de son interlocuteur.
À mon tour de vous faire part de quelques rumeurs. On dit que vous avez connu Sri Lampa
et que vous êtes le seul être humain à avoir exploré l'Hyponéros. Est-ce vrai ?
Les deux idées sont liées. J'ai connu Sri Lampa sur une planète qui, je n'en ai pas la certitude absolue, pourrait être Hyponéros. J'ai plus de 200 ans standard, jeune homme, et la mort ne veut pas encore de moi.
Les yeux de Messaoudine Joufiette brillèrent dans la nuit néo-européenne. Il n'estima pas nécessaire de faire appel à son petit enregistreur au lot. Cette conversation ne sortirait jamais de sa tête.
C'est Sri Lumpa lui-même qui m'a initié à l'antra, poursuivit Sri Ampra. Je ne parle pas de ces initiations caricaturales pratiquées par ces faux guerriers du silence, par ces imbéciles de prêtres Dewick.
Il cracha par terre.
Mais d'une véritable transmission de l'intransmissible. La vibration antrique, le son de vie.
J'ai moi-même été initié par un prêtre de la religion Dewick, avoua Messaoudine Joupiette d'un air dépité.
Autant dire rien du tout,
grommela Sri Ampra.
Vous avez reçu un antra au rabais, une fiente de mouche. Si tel est votre souhait, jeune homme, je vous montrerai ce qu'est une authentique initiation.
Avec joie, s'écria Messaoudine Joupiette.
Votre enthousiasme me plaît. Comment vont les choses sur Syracusa?
Nous en sommes à notre 29e gouvernement planétaire en moins d'un siècle. La bourgeoisie d'affaires pousse les peuples des satellites à la révolte pour renverser l'aristocratie et installer une démocratie. Les autres mondes ne nous ont pas pardonné notre folie hégémonique et nous tiennent toujours à l'écart. La stabilité, la prospérité ne sont pas pour demain. Puis-je vous poser une autre question? Pourquoi ce nom de Sri Ampra? Il signifie, je crois, « seigneur singe » en langue Sadumba. Or, vous n'êtes pas spécialement poilu.
Lorsque je suis revenu d'Aratan...
Aratan.
Un autre nom d'Hyponéros. Lorsque je suis revenu d'Aratan, donc, j'avais régressé à un stade très animal.
Savez-vous ce que sont devenus les guerriers du silence? On dit qu'un buisson apparaît sur Terra Mater à chaque fois que l'un d'eux quitte cet univers.
Combien y a-t-il de buissons pour l'instant?
12. Et les fleurs sont de texture, de forme et de couleurs différentes. Le bras de Sri Ampra se déplia et son index désigna la voûte étoilée.
Contemple le ciel, Messaoudine, et tu verras ce que tu cherches. À l'extrême gauche, la constellation de Phrasistegue, en forme de jabaïb, de vautour. Il protège les guérisseurs et les voyageurs.
Phraciste? C'est Phraciste Bog, le moufti barophile le 25e?
Certains l'affirment. À côté, la constellation de San Francisco et de Phénix, en forme d'oursigre des neiges. On les invoque pour les problèmes de stérilité. Un peu plus loin, la constellation de Wufanli, en forme de trill, le protecteur des guerriers et des ermites.
N'est-ce pas contradictoire?
Les ermites sont des guerriers de l'âme, et les guerriers des ermites des champs de bataille. Fixe maintenant ton regard sur la droite de la voûte céleste. Tu y vois sûrement la constellation de Yel et de Jek, en forme d'œil ouvert, symbole de la clairvoyance et du courage. Là, en forme de pierre volante, la constellation de Chari et d'Oniki, l'allégorie de la dévotion et de l'initiation. L'étoile solitaire qui brille d'un vif éclat, c'est Taoufraïm, leur fils, le gardien permanent et vigilant des annales indiques. Enfin, et c'est la constellation la plus chère à mon cœur, le lézard central, légèrement rouge, le rouge du sacrifice, et les sept soleils à l'emplacement de sa tête, les cheveux d'Afikit dans le corps de Tixou, l'âme d'Afikit dans l'âme de Tixou. Ils brillent ensemble pour l'éternité. On distingue également des poussières d'étoiles à l'emplacement de ce qui fut jadis un trou noir. Ce sont les Skaïtes, les anciens envoyés du vide. Leur désir de participer à la création s'est révélé plus fort que la volonté de l'incréé.
Je ne vois rien de tout cela, soupira Messaoudine. Le vieil homme éclata de rire.
Tu ne sais pas voir avec le cœur. Tu me rappelles le temps où je m'appelais Lothaire Pakulai, membre estimable de l'ISAN, l'Institut des sciences appliquées de Néorope.
À quoi leur aventure a-t-elle servi? Dit le Syracusain. Les hommes se déchirent toujours avec autant de férocité.
La férocité fait partie de la vie. Tu aurais connu les jours du grand froid, les jours du grand vide. Tu ne parlerais pas de la sorte.
Le grand froid, le grand vide. Je croyais que c'était une légende qu'on racontait aux enfants pour les tenir tranquilles.
Le noir du ciel, c'est le blouf. Il guette nos défaillances comme un inlassable prédateur. Sans l'aventure de ces 12-là, les hommes n'auraient même plus le droit de se déchirer. Et nous ne serions pas assis à discuter tranquillement sous le plafond étoilé. D'ailleurs, assez parlé maintenant. Le temps est pour toi venu de recevoir le véritable entrain.